Pour l'association Moissac Ville de Juste oubliée, Jean-Luc Bécard s'entretient avec Denise Delcher.
Vous voulez que je me présente donc ?
Mais je vais vous dire bonjour déjà.
Bonjour.
Bonjour. Alors,
Denise
Glaise.
Oui.
Mais à l'époque qui nous intéresse, vous vous appeliez Denise Delcher.
Voilà, oui.
Alors, l'époque qui nous intéresse, ben, c'est l'époque de la guerre hein, que vous avez passée à Moissac.
À Moissac. Et nous habitions au rue Lagresse Fossat.
Ouais.
Et il y avait donc les éclaireurs qui étaient au fond, à côté du pont. Donc.
Ben sur le quai, oui.
Nous étions, ils passaient tous devant chez nous. Et là, mais seulement moi, j'ai quitté Moissac, je me suis marié en novembre 1941. Mmh. Ça fait que j'ai connu pas mal de personnes quand même dans la bande chez nous. Mais après, beaucoup de choses se sont passées après que je n'étais pas, que j'ai connu simplement de bouche à oreille. Mais après la guerre, parce que mes parents ne disaient rien, évidemment.
Alors justement, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on parle très peu de cette période, qui est pourtant une période dont Moissac pourrait se glorifier. Comment vous expliquez que, là vous me dites que vos parents en parlaient peu, et à Moissac on parle peu de cette époque. Pourquoi on en parle peu?
Mais je ne sais pas. Mon frère, qui avait 12 ans de moins que moi, qui était resté là, qui connaissait tout le monde, il avait connu un nommé Kaufmann,
qui
est maintenant à Moissac. Et il n'était pas content, justement, mon frère, parce qu'il m'a dit, écoute, tu as fait un livre, tout ça, les justes, mais chez nous, tu nous as oubliés. Ah, ça m'avait vexé, ça, beaucoup, mon frère.
Qu'il ne soit pas dans le livre.
Qu'il ne soit pas parmi, je ne veux pas dire les justes, mais qu'on n'ait même pas écrit son nom, alors que mes parents, bon, il y en a beaucoup qui ont aidé. Beaucoup, je pense que tout Moissac, ça ne se savait pas, mais je vois d'après le livre que j'ai acheté, donc Réveille-toi, papa, vous connaissez sûrement ce livre.
Bien sûr, de Nano.
De Nano. Alors, Réveille-toi, papa, c'est fini. Quelque chose qui m'a, depuis 3 jours que je le lis et je ne le veux plus. Et donc, moi j'ai connu Chatin, qui venait à la maison, parce qu'avant la guerre, chez nous, là où ensuite on a pu mettre les Belges et tout le monde qu'il y avait, mon père avait monté une petite épicerie avec charcuterie. Et parmi l'épicerie, il avait toujours du fromage de Cantal, parce qu'étant auvergnat, il allait directement chez les propriétaires qu'il connaissait.
Il avait ses adresses. Tellement
qu'après, pendant la guerre, les Allemands l'ont leur donné un souhait, je ne sais pas comment vous dites ça.
Un Ausweis, oui.
Et c'est lui qui allait en Auvergne chercher un plein camion de fromage. Alors, à mon père, on lui laissait une grosse meule de fromage pour vendre, pour distribuer dans mon sac. Et le reste, c'était presque tout aux Allemands. Et alors, sur ce qu'on avait comme fromage, il regardait toujours Madame Bouchata.
Pour la maison.
Pour vous autres.
Ouais.
Il regardait toujours pour elle. Et ça fait que Chatin, moi je l'ai connue comme ça, qu'elle venait quelquefois à la maison. Mais moi je ne savais rien d'histoire qu'ensuite ils ont caché les tampons et les cartes d'identité. Je l'ai su qu'après la guerre.
Et alors, même si tout le monde s'en doutait un peu.
Tout le monde s'en doutait, mais je crois que dans mon sac, il y a beaucoup qui ont dû participer pour aider d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'elle appelle la ville des Justes. Bon, mais je crois que c'est vrai, parce que quand je lis le livre, qu'il y avait M. Drac à la mairie.
Oui, parce qu'il y a les Justes officiels.
Oui. Il y avait M. Drac, sa secrétaire, je les connaissais tous. Sa secrétaire, c'est la cousine de ma belle-sœur. Alors, tout le monde savait à peu près tout ce qui passait, mais personne ne disait rien. Mais ça, je dois reconnaître que. Donc, les Allemands nous étions en zone libre, nous étions en zone non occupée, et puis il y avait la zone occupée et la zone non occupée. Et alors, il faut dire que nous ne savions jamais, nous n'avons su ce qui peut se passer dans les camps. La population ne savait pas. Après qu'on a bien, on s'est bien rendu compte que vous autres, vous le saviez tous. Mais nous, moi, je me suis mariée, je suis partie dormir à Limoux, dans Londres. Il y avait surtout des maquisards là-bas, qu'on les connaissait aussi, c'était des amis. Mais Nous ne savions jamais, nous n'avons su qu'à la libération ce qui a pu se passer.
Bah, comme la plupart des gens.
Et jamais, personne ne le sait. On nous disait, les prisonniers, même des Français qui étaient là, des amis, comme il a été prisonnier, bon, on disait, c'est un camp de prisonniers, comme il a rappelé les guerres, et puis la guerre finie, ils vont revenir, des choses comme ça. Jamais on pensait, on ne savait pas comment ça se passait. Et d'ailleurs, j'ai eu une amie, une juive, ils étaient à Toulouse. Alors, elle était, elle, avec sa mère, et elle était avec deux oncles. Et j'étais allé passer un mois chez eux, en 41. En début 41, j'avais passé un mois chez eux. Et puis après, je me suis marié, j'ai eu André, mon fils aîné, qui est né au mois de juin. Et j'avais Lulu, la fille de ces gens-là, qui habitait rue de Rémusat,
oui,
à Toulouse. Et ils ont été raflés, parce que quand André est né au mois de juin, je lui ai écrit, elle était venue chez nous passer un mois. Et puis ensuite, elle était partie, elle était venue. Et quand André est né, je lui ai écrit que j'avais un garçon. Elle me répond, tu me dis beaucoup de choses, mais tu ne me dis pas comment il s'appelle. J'avais oublié de lui dire que c'était André. Alors, j'ai répondu, peut-être j'ai attendu 15 jours, et puis j'ai répondu. Jamais plus, je n'ai eu de réponse. Et elle avait été prise, ensuite, je l'ai su après, elle avait été prise dans une rafle, elle et sa famille. Sauf Georges, un qui était toujours en retrait, il se méfiait toujours, parce qu'il y avait une porte qui donnait dans un escalier de service, et fermée avec... ça se voyait pas, mais c'est toujours là. Quand il a entendu du bruit, que ouais, les Allemands tapaient à toutes les portes, il s'est enfui par cet escalier. Mais les trois autres, son frère, celui-là, et puis Madame Crocol et Lulu, ont été pris tous les trois. Et alors, sur ces trois, Georges est revenu, Lulu n'est pas revenue, je portais la photo, je vous la montrerai, elle n'est pas revenue et sa mère non plus. Mais quand on a su par la suite ce qui s'était passé, c'est ces wagons, de déporter les wagons à bestiaux, comme on disait. Sa mère, Madame Crocol, elle avait les fantasies. Alors, elle avait les bras, les jambes comme ça. Elle est partie comme ils étaient habillés, alors que c'était des gens assez aisés, qui avaient les moyens et qui étaient habitués, par exemple, l'hiver, à avoir un manteau de fourrure, des choses comme ça. Mais là, ils ont été pris comme ils étaient. Madame Crocol n'est pas revenue. Et Lulu n'est pas revenue non plus. Et alors, je suppose que ça fait à peu près la date où M. Hirsch,
oui,
a été arrêté lui aussi. À Drancy, il devait y être en même temps.
Là, vous parlez de Sigismond, du père de Jean-Raphaël.
Voilà, oui. Et je pense que c'était...
Qui était le frère de Chata.
Voilà, celui qui a été déporté avec sa femme. Et alors là, mes amis... ont été pris à peu près à ce moment-là, tellement que j'ai fait la relation, j'ai dit, mon Dieu, peut-être qu'ils étaient ensemble avant ici. Puis alors, chez Madame Simon est venue à la maison parce que mes parents, dès qu'ils pouvaient donner quelques tickets, rationnellement, parce qu'il en parlait quand même pour la donner. Enfin, ils essayaient le plus possible de lui donner ce qu'ils pouvaient. On en voyait toujours. Même, ils passaient devant chez nous, quand ils allaient en ville, ou ils passaient devant chez nous.
Pour aller aux douches, par exemple.
Pour aller aux douches.
Ouais.
Mais alors là, il y avait un couple qui s'occupait, surtout une femme qui s'occupait de ses enfants. Je ne me rappelle pas de son prénom. On l'appelait par son prénom, une grande brune, avec son mari qui passait. Et je ne l'ai plus revu après. Et Chata, donc, je l'ai vu quand elle venait comme ça à la maison. Et son mari, j'ai dû le voir. Mais les photos, même sur les photos, ça ne me dit rien parce que je n'ai pas porté attention à ce moment-là. Mais on savait qu'ils étaient là-bas, on savait très bien qu'ils étaient juifs, qu'ils étaient des éclaireurs, mais enfin, on savait ce qu'il en était.
Alors, vous nous parliez des rafles tout à l'heure.
Oui.
Celle dont vous nous parlez, c'était à Toulouse.
C'était à Toulouse.
À Moissac, il y en a eu aussi après 1943. Et oui, pourtant, il y a eu très peu de personnes qui ont été raflées par les Allemands à ce moment-là, par les nazis. Ils étaient toujours autre part, ils étaient toujours partis.
Toujours partis, cachés.
Voilà, donc ils étaient avertis. Vous le saviez, vous, dans Massac, que quand les Allemands allaient arriver, oui, il fallait cacher les enfants.
Mais même après, quand mon père, quand il y a eu les Allemands, quand on fait la route sur l'âme, les Allemands étaient venus à la maison pour chercher mon père et le camion. Seulement, je ne sais pas comment, mon père avait été averti en lui disant, les Allemands viennent te chercher. Il est parti. Même maman ne savait pas où il était, il est parti. Et alors, ils ont eu tapé à la maison, on voulait M. Delchier avec son camion, ils en avaient besoin, il fallait qu'il vienne tout de suite. M. Delchier n'est pas là, on ne sait pas où il est. Il a dû partir, il est parti à la pêche, mais on ne sait pas où. Bon, et le chauffeur de ce camion. Eh bien, il y a un chauffeur qui tient le camion en état. Ben, ce n'est pas un vrai chauffeur. Donc, ils nous sont blessés, ils sont allés le chercher. Et après coup, ils ont su que ce camion allait à Oradour-sur-Glane porter des Allemands en renfort. Ils avaient déjà brûlé. Alors, mon père a failli se trouver à Oradour-sur-Glane à ce moment-là.
Et lui, pourquoi il aurait été emmené? Simplement
parce
qu'il
savait qu'il avait un camion.
C'était pour la réquisition du camion.
La réquisition du camion. Et oui, puisqu'il avait laissé passer pour le fromage, alors il savait très bien que...
Donc il pouvait transporter... Ouais, voilà. Alors comment on vivait à Moissac pendant les années d'occupation? Déjà pendant les années sous le régime de Vichy, oui. Et après sous le régime d'occupation.
Non, mais d'abord sous le régime de Vichy, il n'y avait pas grand-chose dans les magasins pour acheter avec les cartes de... Vous avez vu des cartes d'alimentation? Bon, mais vous savez, 20 grammes de pain, je me rappelle, avec mon mari, nous avions, quand il y avait une distribution d'huile, on avait ça au fond d'une bouteille d'un litre. Et le reste du temps, ils mettaient de l'eau et on passait à la pharmacie pour acheter des graines de lin. Et ces graines de lin, ils les faisaient tremper dans l'eau. Ça faisait une eau un peu onctueuse, donc ça servait pour faire la salade du vinaigre qu'on avait, et ça servait pour faire la salade. Et dans les magasins, c'était assez difficile. C'était pendant l'occupation. Nous avons passé 3 ans à Limoux. On a eu 2 fois distribution d'œufs, 3 œufs chaque fois pour chacun. Et 2 fois distribution, soit une petite boîte de sardines à l'huile, les 3 sardines, soit une toute petite boîte de miettes de thon. Alors on avait pris une boîte de chacun. Et dans les boucheries, mon mari à côté où il travaillait, il y avait une boucherie Chevaline. Et quand le bonhomme de la boucherie Chevaline recevait, qu'il savait qu'il allait avoir de la viande, il les appelait au bureau, là où il travaillait, au pont de chaussée, comme on appelait autrefois. Mmh. Il les appelait. Il gardait la viande pour nous. Alors, autrement, de la viande, on n'en avait pas beaucoup. Normalement, on aurait dû en avoir au moins une fois par semaine. Mais moi, j'avais mon frère qui était venu chez nous. Et je me rappelle une fois, quand j'étais enceinte de mon fils aîné, donc, on a eu une ration de viande, donc j'y suis allée, et j'ai eu un morceau de viande à peu près, vous voyez, 15 cm sur 10, quoi, une épaisseur comme ça, pour 3, plus mon frère qui faisait partie des J3, donc qui était jeune, et moi qui étais enceinte. Alors ça faisait pour 5 parts, ça faisait une, vous voyez, la ration que ça faisait. Et on n'en a pas eu de tout un mois. Et encore, quand on en avait tous les mois, c'était pas toujours. Hein.
Alors, moi, j'avais lu que Moissac était relativement privilégié parce qu'il y a de la culture à Moissac.
Voilà. À Moissac, mes parents, ils ont eu un jardin ouvrier. Alors, ça a été partagé. C'était sur la petite île, vous savez, qui est de l'autre côté du temps.
Bidounet.
L'île de Bidounet. Mmh. Oui. Alors, ça, c'était partagé en jardin ouvrier. Mes parents ont eu un jardin ouvrier là, mais en plus, il y avait une propriété au Cacor. Au Cacor, ils faisaient venir du blé qui était réquisitionné par les Allemands, mais qui leur laissait un sac de blé. Ils faisaient du blé, ils faisaient, des artichauts, des choses comme ça. Mais c'était aussitôt réquisitionné par les Allemands. Parce qu'en début d'année, on leur disait, vous devez donner cette année-ci tant de blé. Ah ben, il y avait des pommiers, il y avait des fruits. Voilà. Mais ça, c'était les Allemands qui le réquisitionnaient au fur et à mesure. Évidemment, ils ne leur laissaient pas la bonne qualité. Ils leur laissaient. Et alors, c'est pour ça que nous, quand on était à Limoux, par exemple, qu'il n'y avait rien que des vignes là-bas, mes parents, maman nous envoyait. Une fois par mois à peu près, un gros colis, c'était des billots comme ça, grands, haut comme ça. Alors tout le tour, c'était des fans de légumes, de carottes, de choux, tout comme ça. Mais au milieu, elle nous mettait une grande boîte, ronde comme ça, de 5 kilos, parce qu'à la maison, ils pouvaient tuer un cochon. Et ça, ce cochon était caché. Et alors là, c'était une affaire pour moi, pour s'occuper du cochon aussi. Et alors, dans cette boîte, ils nous mettaient ou de la saucisse ou du... Enfin, il y avait... J'ai eu, pas la première année, mais la deuxième année qu'on a pu avoir ça, on a eu du lard, on a eu de la saucisse. Nous, on l'a, je veux dire, peut-être pas bien passé, parce qu'on s'est passé de beaucoup de choses, mais enfin, on n'est pas mort de faim, on avait à peu près ce qu'il nous fallait. Je ne sais pas comment, Madame Chatin, comment elle avait trouvé cette maison qui a été assez grande. Ils ont tout rangé, tout cassé, ils ont acheté 2-3 maisons à la suite pour faire venir ensuite des enfants. Et au début, donc, il y avait des réparations, on savait qu'il y avait une colonie, des éclaireurs qui devaient venir. On a toujours dit que c'était des éclaireurs, et puis c'est tout. Madame Chatin, on la voyait toujours avec son costume d'éclaireur. Donc, ils étaient tous les deux avec leur beau costume. Et c'était tout à fait normal, même quand on savait que c'était des juifs, et bien c'était tout à fait normal. C'était des éclaireurs, ils venaient là, et puis c'était tout, ils s'installaient là. Personne n'a trouvé étonnant qu'il y ait une colonie, comme ça, comme on disait, c'est la colonie. Mmh. On disait, c'est la colonie.
Et pourquoi personne ne les a dénoncés? Parce que...
Non, ça c'est pas fait. Et il y en avait bien qui étaient pour les Allemands, mais enfin, écoutez, c'est passé comme il faut, ça. Tout le monde les connaissait, mais personne n'en a parlé de quoi que ce soit, parce que c'était des éclaireurs. Et c'est Chantal qui avait monté ça, qui était venu donc avec, comment il s'appelait lui ?
Bouly.
Bouly. Mmh. Et qui s'en occupait au début, qu'ils ont monté, qu'ils ont fait venir ses enfants petit à petit. Mmh. Et il y en a certains, j'avais une photo, je l'ai donnée à mon frère, et mon frère est décédé maintenant, et j'ai téléphoné à une de ses filles, je lui ai dit, tu n'as pas trouvé une photo comme ça ? Finalement, je n'ai pas cette photo, je cherchais partout, je ne l'ai pas récupérée. C'était mon grand-père qui était dans un village, à Saint-Bourquier, avec une charrette et la jument. Et dessus, il y avait cet ouïghour soudiste qui était là. Ils étaient venus passer la journée. Mon grand-père était allé les chercher. Ils étaient venus. Ils s'étaient occupés de ses enfants. Je pense, oui, là, ils ne dormaient pas. Ils étaient passés la journée. Puis le soir, ils les ramenaient. Et ses gamins étaient contents. Ça les faisait une sortie.
Et les enfants de la maison se mélangeaient avec les enfants de Moissac, qui jouaient ensemble. Comment ça se passait?
Moi, non, je ne les ai pas vus. Ils pouvaient se baigner dans le Tarn, et nous-mêmes, on allait se baigner dans le Tarn, de l'autre côté du pont, parce que le Tarn, il y avait une digue en Moissac qui s'est percée, qui s'est trouée quand la digue a été trouée. Et puis ensuite, surtout ensuite, quand ils ont fait Golfèche, qu'il a fallu un barre d'eau, maintenant on ne peut plus y aller. Mais à l'époque, on marchait dans le gravier de l'autre côté du pont. Et eux, comme nous, ça ne faisait pas de différence. Si on savait que les enfants de la colonie, ben, ils étaient des gamins, et puis c'est tout.
Alors avant les enfants juifs, il y a eu d'autres réfugiés à Moissac. Vous me parliez des Belges tout à l'heure.
Oui, mais c'était des personnes âgées, ce n'était pas des enfants.
Et ils ne sont pas restés longtemps?
Non, ils se sont petit à petit... Quand ils ont vu que les Français étaient comme eux, ils sont remontés chez eux. Mmh. Les Parisiens, ça a été pareil. Ils sont venus, ils ont passé 8-10 jours à Montauban, à Moissac, et puis ils sont repartis. Ceux de Paris, par exemple, M. Doloron, qui faisait dans les fruits aussi, connaissait très bien mon père. Et mon père lui a dit, écoute, plutôt que de passer par le Massif central, je vais vous emmener jusqu'à la Réole, parce qu'encore les Allemands n'étaient pas complètement descendus, ils étaient encore assez hauts. Et après, tu verras, alors mon père est parti avec la voiture, les autres, l'autre est parti avec le camion et du ravitaillement pour eux et son personnel. Et mon père est arrivé à la Réole, ils ont été bloqués par des Allemands qui arrivaient. Les Allemands qui descendaient, qui ont occupé d'abord l'Atlantique. Mais enfin, ils sont descendus et puis ils ont occupé que ça, ils ne se sont pas préoccupés. Des terres à l'intérieur, ils ont fait toute une bande de je ne sais combien de kilomètres de large. Alors, mon père nous a dit, on a attendu la montée, on était de bonne heure, pourtant on a attendu jusqu'à midi, qu'ils veuillent bien s'arrêter pour nous laisser passer. Alors, il y avait des camions, des tanks et tout ça qui passaient. Et quand ça bouchait tout, alors, ils ont laissé passer. Alors, M. Doron est reparti à Paris et papa est revenu à la maison. Et alors, ça a fait... Nous avons donc la première vague qui est arrivée, ça a été donc les Belges. Ensuite, ça a été les Parisiens. Et puis après, plus tard, donc, ça a été les Juifs qui sont venus sur Moissac. Et en plus, ce réfugié là, on ne sait pas d'où il venait. Nous, on n'a jamais. Enfin, moi, je n'ai jamais su d'où il venait. Mais c'était Chantal qui avait réuni tous ces jeunes. C'était des éclaireurs. Et on ne disait pas les juifs ou quoi que ce soit. C'était chez les éclaireurs. Mais tout le monde était bien au courant de savoir comment ça se passait. Et on les voyait, quoi. Et ils passaient tous devant chez nous. Et on ne sait pas si vous savez le temps. Mais d'après le livre, là, elle se débrouillait pour trouver à manger avec tous les enfants qu'il y avait, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y en avait 300 qui étaient passés. Il n'y avait pas de quoi les loger 300, il y a deux temps.
Non, ils sont passés successivement. Ah bon, voilà.
Alors, même Bouly, je vois, je me semble que c'est sa silhouette, d'après les photos, c'est celui que je voyais quelquefois. Celle qu'on connaissait le plus, enfin que moi j'ai connu le plus, c'était Chantal. Mais mes parents ont continué à être avec eux, quoi, tout le temps qu'ils sont restés à Moussac. Parce que papa, en ayant eu l'épicerie, au début, tout ce qu'il pouvait leur garder, ça, il le gardait. Et puis alors, cette histoire des tampons et des cartes d'identité, des fausses cartes d'identité, mon frère m'avait dit que c'était dans une vieille cuisinière qu'il y avait dans une pièce qu'il y avait à l'entrée. Parce qu'ils avaient refait la cuisine, mes parents avaient mis une cuisinière neuve, et puis la vieille cuisinière, ils l'avaient mis là. Et puis, au début, peut-être ça a été là. Mais ensuite, mon père a dit à ma nièce qui a cette fameuse table. C'est une table ronde comme ça, avec des pieds en forme de lion, trois têtes de lion. Et alors, ça se réunissait, ces lions, avec un centre, un gros centre, comme ça, et les lions qui montaient. Et puis, en haut, ça se rejoignait, mais il y avait un espace à peu près grand comme ça en haut, et la table dessus. Personne ne le savait. Et mon père le savait.
Ah, ça faisait une belle cachette.
Et alors, ça, c'était la belle cachette. Ça a été mis.
Donc,
mon nièce m'a dit, écoute, tati, papy André, il était un jour, quand j'ai pris cette table, il a dit, tu vois, c'était là qu'on cachait les cartes de photo d'identité, les cartes d'identité et les tampons.
Donc, quand même, vos parents ne faisaient pas que donner du fromage. C'était aussi chez vous que transitaient les cartes.
De la maison, personne ne le savait, bien sûr.
Bien non, il fallait que le moins de monde possible le sache.
Que M. Barak leur donnait des tampons de la mairie de Moussac. Qui leur avait dit un jour, plutôt que vous ne les cherchez tous les jours, prenez-les le soir et ramenez-moi le matin. Et alors, il devait venir chercher les cartes d'identité aussi à la maison, les divers tampons qu'il y avait. Lui, il leur donnait les cartes des tampons de la mairie et il devait en rester à la maison puisqu'il y avait des tampons aussi.
Et oui, puis un magasin, une boutique, c'est idéal parce que les gens peuvent entrer, c'est pas suspect.
Oui, c'est pas suspect.
Ah oui, donc c'était
Mais tout ça, ça s'est passé, comme je vous dis, moi je suis parti en novembre 41 et au début. Je ne sais pas s'ils venaient tout le temps. Et après, je sais qu'ils sont venus beaucoup plus, donc ils venaient souvent dans la maison. Mais on ne savait pas pourquoi.
Et ben, faut acheter du fromage.
Alors, là, c'est tout, il y a toujours eu.
Ah oui, donc c'était quand même un lieu stratégique.
Ils savaient qu'ils pouvaient venir n'importe qui à la maison. Je crois que mon frère aîné, il me semble qu'il m'avait dit que quelquefois il s'était amusé avec les gamins du bout de la rue, il me disait. Parce qu'ils étaient, mon frère, il est mort, ça fait 2 ans, et il était du même âge aussi. Il avait 5 ans de moins que moi, j'avais 18 ans, donc lui.
Lui, il en avait 13.
Ouais. Et après, finalement, comme moi je suis parti, et chez nous, là-bas, c'était les maquisards qu'on avait à l'époque. Par contre, c'était pas la même chose, mais c'était encore autre chose.
Des réseaux de résistance, vous n'en aviez pas entendu parler à Moissac ?
De résistance par les maquisards. Des réseaux de résistance.
De réseaux de. Oui.
À Moissac, non. À Moissac, non. Mais il y en a eu. Il y en a eu parce que, ça même mon frère, quand il a eu 18, avant 18 ans, donc quand ça a été qu'il allait être appelé, il est parti au maquis. Et mon père avait taillé le maquis.
Et il était où, le maquis ?
Du côté du Lot, par là.
Ouais, donc il remontait vers le nord.
Oui, tellement qu'une fois, il y en avait un jeune qui a demandé, mon père s'est arrêté, il fait, où tu vas ? Vous pouvez me porter un petit peu plus loin, mais monte. Il s'est assis à côté de lui. Et puis à un moment donné, alors, mon père lui a dit, où c'est que tu vas? Il a dit, je vais du côté de l'Orbeck, par là, avant d'arriver à Cahors. Et je vais à tel endroit. Bon, mais monte, j'y vais moi aussi. Alors il y avait mon frère et il habitait là-bas, mon père. Seulement ce gamin. Il y a des Allemands qui sont arrivés. Un camion d'Allemands. Il a pris peur. Il a sauté du camion. Il s'est jeté dans le fossé. Mon père a eu peur aussi. Parce qu'il a dit, s'ils les ont vus, s'ils l'ont vu sauter du camion, ils ont compris.
Ben oui.
Ils n'ont pas dû le voir parce qu'ils ne se sont pas arrêtés.
Après, à partir de 1943, les enfants ne pouvaient pas rester dans la maison. Oui. Donc il a fallu les éparpiller dans des familles.
Dans des familles et puis au village.
Ben oui, bien sûr. Et là, c'était le docteur Hirsch qui avait agi.
Oui. Ouais. Et mon grand-père, après, chez nous, on avait une famille, un couple donc, de réfugiés pour des juifs. Donc. Ils étaient d'Autriche et lui, c'était un avocat, comme je disais tout à l'heure, il était avocat. Et je ne sais pas au début comment mes parents les ont connus. Mais le tout est qu'ils étaient à mon mariage. Et puis ensuite, un jour, ils sont venus avertir la maison. Faites attention, les Allemands savent que vous avez quelqu'un chez vous. Alors vite, mon père a pris le camion. Il a tourné un grand camion avec où il portait du matériel pour les fruits. Il a mis ce camion plein de matériel, eux au milieu tous les deux, et ils les ont amenés chez mon grand-père à Saint-Porquier, là où les gamins ensuite allaient aussi. Ils les ont amenés à Saint-Porquier. Et ces gens-là, ils y sont restés presque un mois là-bas. Jusqu'au jour, alors ils ne sortaient pas, ils sortaient que la nuit. Et dans la journée, ils étaient au-dessus d'un ancien moulin qu'il y avait à la maison. Il y avait du foin, comme si c'était plein de foin là-dedans. Ils se mettaient derrière ce foin. Mais dedans, il n'y avait rien à eux. Mon père, mon grand-père le portait à manger, faisait tout, et ils ne sortaient que le soir. Et alors, un jour, mon père est averti. Ils ont dit, écoute, tu fais attention parce que les parents, les Allemands vont dans Saint-Marquet. Vous avez été dénoncé, ils vont à Saint-Marquet. Alors mon père, on est vite parti avec ce camion, il arrive là-bas, il dit, montez vite, vite, ne cherchez pas quoi que ce soit, montez, vite, ça presse. Ils sont montés dans le camion, ils ont refermé avec des cajots, ils avaient juste que le papier.
Oui, comme si le camion était plein.
Comme si le camion était plein, et ils sont partis. Ils étaient à peine, ça doit faire de chez mon grand-père au bout de la route, ça doit faire à peu près 200 mètres, mettons. Et quand mon père est arrivé au bout de la route, avec les gens derrière, là, le camion des Allemands les a croisés. Et mon grand-père, qui a fait froid, il a su...
Il a gardé le sang-froid.
Faites ce que vous voulez, regardez partout, il n'y a rien. Parce qu'il se méfiait beaucoup de qu'au moins rien ne reste dans la maison. Et maintenant, ils sont partis, mon grand-père n'a rien eu, on ne lui a rien dit.
Alors en fait, chaque fois que, ou presque chaque fois, parce qu'il y a quand même eu 18 déportés, ce qui n'est pas beaucoup pour...
Oui.
Évidemment, pour ceux-là, c'était une catastrophe, mais
bien sûr.
Pour le nombre de Juifs qui se cachaient à Moissac, c'était, ouais, c'était
oui,
pas beaucoup. Donc pour chaque fois qu'il y avait une dénonciation, la solidarité fonctionnait.
Ah oui, parce que chez nous, ils étaient avec... Je ne sais pas comment, parce que papa ni maman n'en parlaient pas de rien.
Vous avez su tout ça après la guerre.
Après la guerre.
Donc vos parents étaient des justes.
Ah oui, on peut le dire. Mais mon frère, ça l'avait vexé. Ils sont passés là.
Ah oui, ça.
Ils ont dit, tu sais, c'est pas la peine d'en faire. Tout le monde a fait. Beaucoup ont fait comme nous. Quoi. D'autant plus qu'il y a eu les vôtres. Il y a eu dans ce couple qui était venu à mon mariage. On les a sauvés. On ne sait pas d'où ils venaient. Mes parents devaient le savoir. Moi, je ne sais pas. Ils les ont cachés d'abord en premier. Ils arrivaient, je ne sais pas. Ils les ont cachés chez les parents de mon beau-frère qui était. Dans la campagne, dans une vigne, il y avait un petit cabanon, alors ils sont restés là 2 ou 3 jours. Et puis après cela, après, ils les ont emmenés chez mon grand-père. Et puis ensuite de là, ils les ont emmenés du côté du Lot aussi, par là-bas, il y avait quelqu'un qui connaissait, ils ont emmenés. Et puis finalement, on a ceux qui s'étaient sauvés, parce qu'après, j'ai correspondu avec eux très longtemps, et ils étaient à Toronto. Et je les ai retrouvés là, moi, j'ai correspondu toujours avec eux.
Merci beaucoup.
C'est avec grand plaisir. Vous savez, moi aussi.
En tout cas, merci pour ce témoignage. Et puis,